Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Amandine Gay. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Amandine Gay, vous êtes documentariste et sociologue et vous avez choisi comme journée particulière le 14 novembre 2002. Ce jour-là, vous aviez rendez-vous pour consulter votre dossier d'enfant né sous X.
Alors, maintenant que vous êtes ici, quels sont vos espoirs et vos attentes? Eh bien, en fait... j'ai envie de savoir, c'est tout.
Ouais.
Ouais, bien sûr. J'aimerais vous confier quelque chose, Hortense. Quelque part, mais nous ne savons pas où, se trouve votre mère naturelle. Bien. Elle est probablement mariée, peut-être pas. Elle a peut-être d'autres enfants, elle est peut-être morte, elle peut même habiter en Australie ou ailleurs, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que lorsqu'elle a pris la décision de vous faire adopter, elle avait le sentiment qu'elle ne vous reverrait probablement jamais de sa vie. Aussi, n'ayez pas trop d'espoir au stade où nous en sommes.
Bien sûr.
Très bien. Regardez ce dossier.
Qu'est-ce que c'est?
Toute votre histoire.
Amandine Gay, vous avez reconnu cet extrait?
Oui, même si je ne l'avais, je pense, jamais entendu en français. C'est donc l'extrait de Secrets and Lies où le personnage d'Hortense va voir son dossier.
De Mike Lee.
Ouais.
C'est un des plus beaux films sur l'adoption qu'on ait pu faire. Moi, j'ai pleuré en le re-regardant.
Mais bien sûr, mais tout le monde a pleuré. Moi, je le regarde au moins une fois par an.
C'est vrai? Une fois par an?
Ouais. C'est un très bon film. Et puis, effectivement, je suis d'accord. C'est à ce jour le meilleur film qui a été fait sur l'adoption.
Alors, comment s'est passé pour vous, Amandine Gay, ce 14 novembre 2002? Ça faisait longtemps que vous pensiez aller demander à voir ce dossier?
Oui, alors disons que ce qui était vraiment important pour moi, c'était le côté, je savais que j'avais le droit. Je savais qu'à 18 ans, j'aurais le droit d'aller connaître mon histoire. Et donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'avais envie de faire parce que ce que je dis souvent, en fait, quand on y pense, pour les personnes qui ont jamais réfléchi à ces questions-là, imaginez ce que c'est de absolument rien connaître de vos origines et de votre passé. Bien entendu qu'il y a une curiosité. Et du coup, de fait, dès l'enfance, l'enjeu de se dire effectivement qui est cette famille biologique et qu'est-ce qui s'est passé. De mon côté, je dirais que j'avais pas forcément de fantasme sur rencontrer une personne. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très important de rencontrer leur mère biologique, leurs parents biologiques. Pour moi, c'était plutôt la curiosité de qu'est-ce qui s'est passé, quelle était l'histoire de ces deux personnes, qu'est-ce qui avait conduit au fait que je sois née sous X, etc. Et puis après, voilà, on a beau savoir qu'il y a peu de chances qu'il y ait des choses dans le dossier, comme l'explique l'assistante sociale dans le film, et puis qu'il y a une chose qu'on sait, le principe de l'accouchement sous le secret, c'est qu'il y a peu d'informations sur les parents biologiques. Voilà, on a toujours un petit espoir, et disons que le fait d'aller voir le dossier, c'est de se confronter à est-ce qu'il y a une possibilité ou non que j'apprenne quelque chose.
Parce que qu'est-ce que vous saviez avant d'aller à ce rendez-vous le 14 novembre 2002? Vous saviez quoi de votre histoire, Amandine Gay?
Je savais à peu près tout ce qu'il y avait finalement dans le dossier. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais née d'une jeune femme d'origine marocaine qui était venue faire ses études en France, qui était tombée enceinte et puis qui était face à une personne qui ne voulait pas avoir un enfant avec elle, et que comme elle était venue en France faire des études et vraisemblablement pour avoir une meilleure vie, elle n'avait pas rentré mère-fille au Maroc, et surtout pas, en plus je pense, avec un enfant noir. Ça, c'était pas dans le dossier, mais voilà, il y a aussi toute cette question aussi de la négrophobie au Maroc, même si vraisemblablement elle était une Marocaine foncée, voire noire, mais il y avait eu cette information qui avait été donnée à mes parents, qu'elle avait assuré que l'enfant serait noir. Ce qui, moi, me laisse penser que, du coup, mon père biologique est aussi noir. Mais bon, tout ceci sont des suppositions.
Ça n'était pas inscrit dans le dossier.
Ça dit mère marocaine, père français. Donc, ce qui ne nous renseigne pas beaucoup sur quelles sont les origines du père biologique.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'après avoir accouché sous X, une mère est invitée, si elle le souhaite, à fournir des informations sous un pli cacheté. C'est cette enveloppe cachetée à laquelle vous avez eu accès ce 14 novembre 2002.
Alors, ce n'est pas une enveloppe nécessairement. Moi, pour mon époque, c'était une lettre qui avait été dictée par ma mère biologique à l'assistante sociale. Et c'est pour ça que je dis qu'on arrive à plein de niveaux de narration, c'est-à-dire qu'a raconté ma mère biologique. Exactement, parce que c'est une lettre résumée de ce qu'elle a raconté à l'assistante sociale. Donc qu'est-ce qu'elle a raconté ?
Quels étaient ses mots ? Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'était pas forcément ses mots.
Moi, je pense que j'ai les mots de l'assistante sociale.
Oui, c'est ça, vous avez les mots, mais pas les mots de votre mère.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que même l'assistante sociale a noté ou pas dans ce qui lui a été raconté ? Je pense pas qu'il y ait tous les détails. Et par exemple, je pense que le détail qui m'intéressait, qui était de connaître les origines, en tout cas, on va dire, de ma négritude, voilà, quelqu'un qui aurait été un peu éveillé sur les questions raciales, peut-être que ce serait dit que français noir, ça aurait été sympa de savoir d'où. Voilà, moi, par exemple, ça m'aurait intéressé.
On peut aussi penser que l'assistante sociale n'a pas voulu écrire certaines choses, c'est-à-dire peut-être des choses trop violentes ou qu'elle supposait trop violentes ou...
Non, alors ça, je pense que c'est pas nécessairement le cas, aussi parce qu'effectivement, c'est une question que se posent toutes les personnes adoptées, de savoir est-ce qu'elles sont issues d'un viol ou d'une histoire traumatique, etc. Et donc, du coup, si jamais ça devait être le cas, en fait, c'est inscrit au dossier pour pas que la personne ait des angoisses ou... Et donc, non, moi, c'était pas du tout ça, mais en plus... Les cas d'accouchement sous le secret sont généralement assez banals et similaires, et ce sont effectivement des personnes qui se retrouvent seules avec un enfant dans des conditions qui font qu'elles peuvent pas s'en occuper. C'est souvent
trop
ça.
Trop jeune.
Et en fait, mais alors trop jeune, c'est plutôt, on va dire, un préjugé, un stéréotype. Moi, par exemple, dans mon dossier, il y avait écrit que ma mère biologique avait 27 ans. Mais moi, j'étais surprise aussi. On s'imagine souvent la presque adolescente qui se dit que ça va pas être possible, etc. C'est plutôt le fait des femmes vulnérables, isolées. Là, par exemple, on pense aux femmes migrantes. Je sais que ma génération de personnes qui sont nées sous X, ce sont beaucoup de personnes noires et maghrébines. Donc, c'est beaucoup lié à des questions économiques, à des questions d'isolement familial, à des questions aussi religieuses. Je pense, par exemple, plus tôt dans l'histoire de l'accouchement sous le secret, quand il y avait encore des enfants blancs disponibles, en France, on a beaucoup adopté, par exemple, des Québécois. Parce qu'à l'époque où le Québec était une société extrêmement catholique, qui ne tolérait pas ni les relations en mariage, ni les filles, encore moins les filles mères, etc., bah, ces femmes-là, souvent, étaient contraintes de se séparer de leurs enfants, et ces enfants étaient adoptés en France. Donc voilà, c'est plutôt des questions sociales et économiques.
D'accord, Amandine Gay. Est-ce que vous n'avez vraiment rien appris dans ce dossier, que votre mère avait 27 ans? Rien d'autre?
Alors, j'ai appris quelques petits détails qui font que quand j'aurai l'argent pour me payer un détective privé, peut-être qu'effectivement je pourrais le lancer là-dessus. Mais oui, quelques informations. Par exemple, l'école où elle étudiait. Ou en tout cas, le type.
En France.
Voilà. Le type d'études qu'elle faisait à Lyon à cette époque et qui fait que,
vous pouvez remonter une piste.
Voilà.
Comment vous avez été reçue ? Quels mots on a pu vous dire pour vous préparer à la lecture de votre dossier ?
Non, bah, moi, on m'a pas dit grand-chose. Moi, j'ai eu un rendez-vous vraiment de type fonctionnariat classique. C'est-à-dire que je suis arrivée dans le bureau. La personne m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez regarder le dossier seul ou que je reste ? Moi, je la connaissais pas. J'avais absolument pas envie de partager ce moment-là avec une inconnue. Donc, j'ai dit non, je préférerais rester seule dans le bureau. Donc, j'ai fouillé, j'ai regardé tous les papiers, etc. J'ai lu cette lettre. Donc, voilà, je pleurais. J'étais quand même dans un état d'émotion assez intense. Puis au bout de, je sais pas, un quart d'heure, cette dame est revenue. Et puis je lui ai dit, voilà, bon, moi j'aimerais emmener mon dossier avec moi. Et elle m'a dit, bah, vous pouvez emmener une copie, mais nous on garde l'original. Et alors ça, moi, ça a été, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder l'océan, où je me suis dit, il existe peut-être à peine une quinzaine de papiers qui parlent du début de ma vie et de mes origines. Et c'est quand même ma vie. Et je vais devoir laisser ça dans un bureau et repartir avec une copie. Et ça, j'avoue qu'à ce jour, je continue à trouver que c'est absolument scandaleux. L'État pourrait se faire une copie certifiée et nous donner nos originaux.
Et à la sortie de l'ADAS, il y avait une amie qui vous attendait, heureusement.
Ah oui, puis heureusement qu'elle avait incité. Au départ, je voulais y aller toute seule. Je pense que ça aurait été un peu intense. Donc oui, non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai cette amie qui m'attendait et puis qui m'a consolée. Et puis après, je suis passée à autre chose. C'est vrai que j'ai fait cette démarche, j'avais 18 ans. Et je pense que je me suis replongée dans mon dossier. Je me suis replongée dans mon dossier 10 ans plus tard, quand j'ai commencé à décider de travailler de façon universitaire, et puis que j'avais déjà en tête l'idée de faire un film
sur l'adoption.
Mais pendant 10 ans après, j'ai plus rouvert les papiers.
Une dernière question. C'était quoi cette tristesse ?
C'était celle de savoir qu'effectivement, je ne saurais vraisemblablement rien. Et donc, tant qu'on va pas voir le dossier, on sait qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose. Quand on a été voir le dossier et qu'il est quasiment vide, on sait que c'est plus ou moins la fin du chemin. Et ça, c'était terrible. Et j'avais pas du tout réfléchi à ça avant d'y aller, en fait.
I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Now people gather around. Now people jump around. Get your freak on. Get your freak on.
Amandine Gay, on pensait vous faire plaisir en vous faisant écouter Missy Elliott, mais ça marche.
Tout à fait, je suis ravie.
Vous dansez un peu, enfin vous vous tenez, quoi. On sent que vous vous retenez.
Ouh, je suis sur la chaise, on est sur la radio. Effectivement, c'est pas la grosse soirée, mais oui, ça donne toujours envie de danser, Missy Elliott.
Ah non, ça me fait rire, c'est pas la grosse soirée, c'est vrai, c'est pas la grosse soirée, c'est une journée particulière et c'est sur France Inter. Et ça continue jusqu'à 15h. Et c'est la documentariste Amandine Gay qui est notre invitée ce dimanche. Amandine, donc vous avez choisi comme journée particulière le 14 novembre 2002. Ce jour-là, vous avez pu consulter votre dossier d'enfant né sous X. Cette même année 2002, Ségolène Royal mettait en place le CNAOP, le Conseil National pour l'accès aux origines. C'était quoi l'objectif de ce conseil?
L'objectif de ce conseil, c'était de venir répondre à un argument qui était porté par les associations de personnes nées sous X depuis de nombreuses années, vu que c'est une disposition à l'accouchement sous secret qui existe depuis 41. Donc il y a eu plusieurs associations dont l'argument principal était que, en tant que personne née sous X en France, on était le seul groupe qui avait un déni de droit, qui était celui du droit à connaître ses origines. Et donc, dans cette idée, alors moi je reste même en tant que personne partagée, c'est-à-dire qu'en tant que féministe, je trouve ça très important que les femmes aient accès à l'accouchement sous le secret, puisque la maternité, elle est toujours, on va dire, du côté de la responsabilité des femmes, vu que c'est elles qui portent les enfants, et que les hommes peuvent juste effectivement partir ou dire qu'ils veulent pas être mêlés à cette histoire de maternité. Mais d'un point de vue de personne née sous X, moi je trouve ça aberrant. Par exemple, mon époque, c'est celle où il y avait même pas nos antécédents médicaux dans le dossier. Donc moi, par exemple, dès que j'ai un problème de santé, etc., et qu'on me demande, mais alors dans votre famille, est-ce qu'il y a un historique de cancer du sein, etc. Bon, bah, je n'ai pas de réponse.
Vous ne savez pas répondre.
Donc, il y a eu tout un ensemble, on va dire, de mobilisation de personnes adoptées sur ces questions-là.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce conseil mettait à disposition, je ne sais pas, des détectives, des structures pour faire des démarches, pour en savoir plus que ce qu'il y avait dans ce dossier? Ça veut dire quoi?
Alors, bah, ça aurait été le rêve. Idéalement, effectivement, le CNAOP avait vocation à ce qu'on puisse demander l'ouverture de notre dossier et une recherche d'origine, c'est-à-dire effectivement faire une remontée pour trouver qui étaient nos parents biologiques.
En fait, le CNAOP n'a pas aidé plus que ça les
non,
enfants.
Non, mais par exemple, actuellement en région lyonnaise, il y a 5 ans de délai pour l'ouverture des dossiers même. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une demande au CNAOP en 2016 et je sais que ma demande sera consultée autour de 2021. En tout cas, à l'époque, je savais qu'il y avait 5 ans de retard. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'équipe qui sont dédiées à ça au sein des institutions. Ça prend des années. Et ensuite, quand les dossiers sont ouverts, il n'y a pas de détective privé au sein des agences d'adoption. Il n'y a pas même, par exemple, des
C'était
psys,
un conseil
etc.
pour calmer les associations d'adopter, ce conseil, ce CNAOP, ce conseil national pour l'accès aux origines. C'était fait pour calmer les revendications des associations d'adopter. Et sans...
bah, moi, je ne connais pas les motivations des institutions. Donc là, on va dire c'est un procès d'intention. On va espérer qu'ils l'ont fait en se disant que c'était une revendication légitime de la part des adoptés. Mais si c'était un premier pas, il manque les suivants, c'est-à-dire des fonds et puis l'engagement d'équipes qui nous permettraient de faire des recherches sur nos origines.
Amandine Gay, donc vous êtes née sous X le 16 octobre 1984, vous avez passé 3 mois en pouponnière à la Cité de l'Enfance de Bron. Et comme vous l'avez écrit dans votre blog, Amandine Gay, la Cité de l'Enfance, c'est un moment en suspens dans votre vie, un moment en suspens avant de commencer une nouvelle vie avec un nouvel état civil, c'est-à-dire que vous avez complètement changé d'état civil. Et le 12 février 1985, tel un phénix, c'est aussi ce que vous écrivez dans votre blog, vous êtes née une autre fois. Et vos parents adoptifs, mais vos parents vous ont nommé Amandine Gay. Vous êtes devenue une autre ou la même. C'est les seuls cas où on peut complètement changer d'état civil, hein, ces cas d'adoption.
Oui, exactement. Et je trouve que c'est intéressant, bah justement, comme on est à une époque où, par exemple, les personnes trans ont beaucoup de mal à obtenir un changement d'état civil. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais mis ça sur mon blog à l'époque, de dire qu'en fait, il y a déjà un groupe pour qui c'est possible en France. Alors, encore une fois, c'est même pas ce groupe-là qui a choisi de changer d'état civil. Mais c'est donc possible. C'est une disposition légale qui pourrait être mise en place. Elle existe déjà. Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais oui, non, j'ai même passé du coup 5 mois en pouponnière. À mon époque, on était 2 enfants par chambre, et donc je me suis toujours demandé, par exemple, ce qui est devenu cette autre personne.
Qui était avec vous dans la chambre.
Bah oui. Et moi, j'ai commencé ma vie avec un autre enfant, et avec qui on a partagé cette expérience particulière.
Ce moment de flottement.
C'est ça, entre deux familles ou entre deux histoires. Donc oui.
Et vous, 2 enfants, 2 dates d'anniversaire.
Oui. Ouais, on a toujours fêté mes 2 anniversaires avec mes parents. Et effectivement, de mon côté, le 16 octobre a toujours été une date plutôt mélancolique où je me demande si ma mère biologique pense à moi, etc. Ce genre de choses. Puis en plus, mon octobre, il fait toujours gris, il pleut. Enfin, c'est un espèce de truc que c'est
quand même. Il se met à pleuvoir,
C'est quand même un mauvais mélo. C'est toujours la date où bon, même si moi je suis pas déprimée, de toute façon, le contexte sera là pour ça. Et puis, on fait le 12 février avec mes parents, effectivement. On a toujours fêté le 12 février. Et puis même quand j'étais au Canada, je reçois un bouquet de fleurs, etc. Ça a toujours été notre date à nous, puisque c'est la date où effectivement je suis arrivée dans leur vie.
Monsieur Brunet, vous avez vous-même adopté 4 enfants.
Oui, monsieur.
C'est exact.
Oui, oui.
Oui, mais dans votre cas, il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est que vous avez, si vous permettez que je vous le dise, monsieur, oui. Je le sais, vous avez un enfant de couleur.
Oui.
Quel âge a-t-il cet enfant?
Ben, c'est la dernière, elle a 9 ans et demi.
Oui. Est-ce que vous faites une différence entre elle et les autres?
Pourquoi voudriez-vous que je fasse une différence?
Il n'y a pas lieu de faire de différence.
Ben, c'est ma fille.
Elle a du sang, elle est d'originaire de quelle...
Oh ben, elle est parisienne, c'est la seule qui soit parisienne de mes 4 enfants.
Oui. Et elle va à l'école comme les autres, bien entendu.
Exactement, oui.
Et elle ne se pose pas de questions?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, ses camarades sont très gentils avec elle. Ses maîtresses sont charmantes. Non, ça va très bien. Non, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Absolument pas. Voyez-vous, au fond, le problème de la couleur, etc., ça fait peut-être hésiter beaucoup de gens, mais c'est un leurre. Quand on a dans ses bras un enfant que l'on aime, il n'y a pas de couleur qui tienne.
C'est une jolie archive, non, Amandine Gay ? Elle date de 1965 et c'était un reportage du grand Frédéric Potcher. Un reportage sur l'adoption. Qu'est-ce que vous pensez ?
J'ai beaucoup aimé le « Elle est parisienne ».
D'où vient-elle ? Elle est parisienne.
C'est un grand monsieur, ce monsieur Brunet. Oui, bah effectivement, la question raciale dans l'adoption, c'est un sujet qui est rarement abordé, on va dire frontalement ou comme sujet de réflexion. Et pourtant, ça se pose effectivement. Avoir une famille où il y a des personnes blanches, des personnes noires, ou même il y a des familles carrément multiraciales quand il y a une espèce d'adoption un peu d'enfants de différentes origines. Ça se pose, alors effectivement, pas
mais
en termes
cas,
de...
Mais c'est votre cas, c'est surtout que c'est votre cas, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez été adoptée par une famille blanche, Amandine Gay, et vous étiez la seule enfant noire.
J'ai un frère, donc on était deux noirs au moins.
Vous étiez deux noirs dans cette famille, dans le village.
Dans le village et dans la famille, on était au moins deux, donc ça je pense qu'aussi c'est important de grandir, peut-être de ne pas être adoptée seule. Ouais.
C'était pas commun en 1984 de faire ce choix. Je me demande qui étaient vos parents pour faire ce choix, qui est un choix courageux. Peut-être même difficile, parce que vous avez grandi dans un village, dans la banlieue de Lyon, c'est ça ?
Oui, bon, je pense que de leur côté, c'est absolument pas un choix courageux. Et là, je le dis dans le sens où ils le disent aussi. Hein. Les personnes qui adoptent, elles adoptent avant tout pour elles. C'est parce qu'elles peuvent pas avoir d'enfants biologiquement. Et donc, du coup, ensuite, la question de quels enfants vont arriver dans leur vie, ça peut aussi être des accidents. Alors, dans le cas de mes parents, il se trouve qu'ils ont d'abord rencontré mon frère, et ma mère est institutrice. Et mon frère était un élève dans sa classe. Et là, c'est un autre type d'adoption. D'accord. C'est les adoptions de personnes qui... Il y a une loi française qui dit que quand un enfant ne reçoit pas la visite de ses parents biologiques, qu'il est placé. Et qu'il ne reçoit pas la visite de ses parents biologiques pendant plus d'un an, il est adoptable. Et donc, mes parents avaient commencé à parrainer mon frère. C'est-à-dire qu'il avait les vacances et les week-ends avant même de savoir qu'ils étaient infertiles. Et donc du coup, entre-temps est arrivée la procédure d'adoption de mon frère parce que effectivement on leur a proposé, puis ils s'entendaient bien et lui il voulait. Ensuite ils ont découvert qu'ils étaient infertiles et comme ils avaient déjà un enfant noir et qu'à l'époque effectivement c'était pas du tout l'époque Brad Pitt, Angelina Jolie, c'est trop swag d'avoir des enfants racisés. Là les assistantes sociales leur ont dit si vous êtes prêt à avoir un deuxième enfant noir, ce sera plus rapide. Et donc c'est comme ça aussi que moi je suis arrivée.
Voilà. Alors comment vous parliez de votre couleur, du fait d'être noire, vous en parliez avec vos parents et vous en parliez avec votre frère, il y avait des discussions ouvertes là-dessus, ils vous ont aidé à vous construire avec cette différence par rapport à eux ?
Alors moi je dirais qu'en termes de mots pas forcément, par contre en termes de construction c'est sûr que oui. Moi ma mère, j'ai eu énormément de chance d'avoir effectivement des parents, mais en particulier ma mère qui avait un éveil là-dessus. C'est-à-dire que ma mère a été en fait en Guadeloupe pour un échange œcuménique quand elle avait la vingtaine, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de touristes, et donc elles ont vécu avec sa sœur le fait d'être elles différentes. C'est-à-dire d'arriver quelque part où il n'y avait pas de blancs, en tout cas pas des blanches de la métropole comme ouais. ça, où on leur touchait les cheveux, etc. Et ensuite, un ami qu'elle s'était fait là-bas, qui était diacre et qui était noir, est venu dans leur village. Et là, on parle des années 60 dans un village de la région lyonnaise. Donc, c'était la première fois que les gens du village voyaient un noir. Et donc là, elles ont vu aussi les gens du village qui touchaient les cheveux de leur ami, qui voulaient regarder l'intérieur de ses mains parce que l'intérieur, elle était blanc, puis l'extérieur était noir, etc. Et ça les avait assez choquées. Et donc, je pense que quand ma mère s'est retrouvée avec des enfants noirs, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même un travail à faire pour qu'on vive bien le fait d'être noir. Donc moi, par exemple, j'ai eu des poupons noirs, j'ai eu des poupées noires. On fréquentait cet ami diacre. Donc moi, j'ai quand même été élevée, j'étais baptisée. Et puis quand j'étais petite, on allait à la messe. Donc ma mère m'emmenait aux messes guadeloupéennes pour que je sois avec des noirs. J'ai fait du basket assez tôt dans ma vie, à 8 ans. J'étais très grande en fait. Et donc le médecin de famille avait conseillé à mes parents de peut-être me mettre au basket où ce serait un endroit où le fait d'être grande serait valorisé. Et donc j'ai été au basket. Et effectivement, ça a joué aussi un rôle central dans ma vie puisqu'à 12 ans, j'ai été détectée. Et on m'a donc invité à jouer dans des clubs de banlieue lyonnaise et je suis partie jouer à Bron. Et à Bron, il y a énormément de Noirs, d'Arabes, etc. Ce qui fait que moi, à partir de 12 ans aussi, ma socialisation est devenue très noire et arabo-centrée, enfin si on veut. Donc ça a toujours été encouragé. Donc disons qu'on n'était pas à un niveau politique, théorique de ce qu'est la négritude, même si ma mère avait aussi une opinion sur les cheveux défrisés. Donc j'ai quand même eu ma mère qui une fois m'a dit... Donc ça, c'est quand j'étais adolescente et que je voulais me défriser les cheveux, qui m'avait dit, moi j'ai vu une manifestation de noir, il disait que se défriser les cheveux, et ben c'est un signe de rejet de sa négritude. Et puis je me disais, mais quand même, elle est gonflée. C'est quand même pas une petite bonne femme blanche, là, d'1m56, qui va venir m'expliquer ma négritude. Mais en tout cas, je veux dire, c'était un sujet. Et le sujet, c'était que, j'avais de quoi être fière d'être noire. Et puis, j'étais encouragée à fréquenter des personnes noires et à explorer ce côté-là de mon histoire.
Oui, c'est ça. Ils vous ont accompagné. Ouais. Dans ce chemin, sur ce chemin.
Ouais.
You ain't nothing but a hound.
Amandine Gay, est-ce que vous savez ce qu'on vient d'entendre?
Bah, c'était Big Mama Thornton pour Hound Dog.
Alors, faut dire qui est cette femme. Moi, je la connaissais pas avant de faire l'émission.
Bah, donc, c'est une des pionnières du rock'n'roll avec Sister Rosetta Tharpe. Et comme souvent, les femmes noires ont ensuite disparu de l'histoire du rock'n'roll. Mais sans elles, il se serait pas passé grand-chose. Et ce titre a été ensuite repris par Elvis Presley. Mais il vient d'abord d'une femme noire.
France Inter. Zoé Varier. Une journée particulière.
Amandine Gay, je vous ai présenté au début de l'émission en tant que documentariste et sociologue. J'aurais pu aussi dire que vous êtes afroféministe. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, me dire ce que c'est que l'afroféminisme ?
Oui, bah quand je dois le dire rapidement, j'explique que c'est pour moi un outil qui me permet de ne pas avoir à dissocier le fait d'être une femme et d'être une noire, puisque effectivement en tant que femme noire, je peux vivre un racisme genré et un sexisme racialisé, donc qu'il s'agisse des expressions du type les femmes noires sont des gazelles, des félines, des panthères, et donc qu'on aurait effectivement une sexualité débridée, donc ça voilà, c'est le sexisme racialisé, et puis le racisme genré. Ça va être effectivement le fait que, par exemple, même si ça nous arrive nettement moins souvent que les hommes noirs, mais moi j'ai quand même eu droit à une fouille au corps à Châtelet sans raison, un jour où les policiers avaient envie, avec les mains écartées contre le mur, etc. Et je connais assez peu de femmes blanches à qui c'est arrivé.
Alors, vous avez justement fait un film sur les femmes noires. Vous vouliez faire entendre les femmes noires que vous connaissez, telles que vous les connaissez. Vous avez donné la parole à 24 femmes noires francophones pour qu'elles parlent de leurs conditions et du regard que l'on porte sur elles.
Tous les hommes blancs que j'ai fréquentés m'ont toujours ramené à ce fantasme-là. Des réflexions qui étaient très portées sur le côté voilà, un peu sauvage, le côté un peu... ouais, un peu bestial, un peu sexuel, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un moment, t'es une sorte d'expérience, en fait. C'est-à-dire que pour certains blancs, mais même pour d'autres cultures, tu vois, t'as ce truc de... Toi, il y a tout un truc autour de la femme noire qu'il faut tester, tu vois. Ouais, sur la sexualité, enfin... oui, il y a tellement de clichés autour de nous qu'effectivement, voilà, on est une sorte d'énigme, d'expérience, un truc à tester, et... ouais...
Et souvent, du coup, quand je sortais avec des hommes blancs, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont avec moi pour ça? Et est-ce que je dois me conformer à ce qu'ils pensent? Et est-ce que, voilà. Et ça, c'est dangereux parce que tu peux pas vivre ton histoire personnelle avec la personne sans penser à ces trucs-là. Et ça nuit à ton développement intime de femme et ton développement sexuel aussi de femme.
Amandine Gay, vous vous êtes inspirée de votre propre expérience pour mettre au point votre questionnement. Ce sont des situations où, dans lesquelles vous vous êtes trouvée, vous aussi, animalisée, bestialisée, autour de la sexualité. Enfin, tout ce dont elle parle, vous l'avez vécu, vous aussi.
Oui, c'était le principe de ce questionnaire, Ouvrir la voie. C'est un film qui est bâti en tant que grande conversation entre des femmes noires. Donc, il y en a 24 à l'écran, puis il y en a une 25e qui est moi. Et donc, toutes les questions que je leur ai posées, elles venaient de mon parcours de vie, donc le film, il commence au jour où on découvre qu'on est noir et ce que ça veut dire dans des sociétés occidentales francophones, donc en l'occurrence la France et la Belgique, jusqu'au jour où on décide ou non de quitter la France. Et c'est vrai que avant qu'on change le chapitrage pour des considérations, on va dire, esthétiques du film, la première thématique s'appelait effectivement le jour où je suis devenue noire, la deuxième c'était cliché de la femme exotique, etc. On avançait comme ça dans le film.
Voilà.
Et donc moi je leur expliquais toujours d'où venait la thématique par rapport à une anecdote personnelle. Donc, par exemple, pour la première, je leur disais, moi, j'ai changé d'école en grande section maternelle, puis une enfant m'a dit, je te donne pas la main, t'es noire. Puis pour moi, c'est comme ça que je suis devenue noire. C'est-à-dire, je savais que ma couleur de peau était marron, parce qu'on est enfant, on voit les choses, on voit les couleurs. Par contre, l'assignation raciale qui fait qu'on est noir, et apparemment, c'est assez grave pour qu'on nous donne pas la main, et à 5 ans, c'est grave, qu'on refuse de nous donner la main. Bon, voilà, ça, c'était la chose dont j'avais envie de parler dans cette partie-là. Puis on avançait comme ça quand je leur présentais le questionnaire en pré-entretien.
Et là, vous êtes en train de faire à peu près la même chose, enfin, selon le même dispositif, avec des adoptés, c'est-à-dire que vous voulez donner la parole à des adoptés pour qu'on entende leur voix, pour qu'ils puissent appuyer aussi leurs revendications auprès du gouvernement et auprès de la loi, des instances qui légifèrent autour de l'accouchement sous X ou de l'adoption. C'est ça que vous essayez de faire en ce moment, que vous avez commencé à faire, parce que vous avez une conviction, Amandine Gay, c'est que l'intime, c'est politique. C'était un vieux mot d'ordre des féministes des années 70 que vous avez repris et auquel vous tenez. En quoi l'adoption, c'est politique? En quoi le problème de l'adoption est un enjeu, est un problème politique?
Alors je dirais qu'effectivement, pour le prochain film, l'objectif est encore une fois de faire entendre une voix qu'on n'a pas entendue, donc celle des personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes. Dans les médias, on va souvent entendre les enfants adoptés. Moi, ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, il y a au moins 250 000 personnes adoptées en France, entre celles qui ont été et ceux qui ont été adoptés nationalement et internationalement. Et qu'en fait, étant donné que depuis les années 2000, l'adoption internationale baisse, et que ça fait encore bien depuis les années 90 que l'adoption nationale baisse aussi, ben finalement, dans ces 250 000 personnes adoptées, la majorité sont des adolescents et des adultes. Donc toutes ces personnes-là ont effectivement un recul et même une expertise, je dirais, même sans aller aux gens qui militent.
Mmh.
Mais effectivement, on a vécu une vie d'adopté, donc on a des choses à dire là-dessus. Et quand on a aujourd'hui des personnes qui ont 60, 70 ans, elles peuvent aussi expliquer ce que ça veut dire, par exemple, d'être grand-parent et adopté. La filiation du point de vue d'une personne adoptée, c'est-à-dire ne pas connaître ses origines et puis éventuellement avoir ensuite ses propres enfants biologiques et puis des petits-enfants qui vont poser des questions, etc. Comment on se positionne vis-à-vis de ça tout au long de sa vie. Et c'est pour ça que l'identité identité d'adopté ne disparaît pas. Donc après, moi, je sépare un peu, on va dire, mon travail artistique de la militance ou de la recherche. On veut dire que moi, je travaille autour de ces trois pôles. Mais c'est vrai que si je fais un film, c'est pas tant pour faire changer les lois, d'autant que le prochain documentaire va porter sur l'adoption internationale. Donc ça va moins venir questionner, par exemple, le rapport à la naissance sous X, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de, encore une fois, renouer de la gentilité ou du pouvoir aux personnes qui n'en ont pas eu au départ. On ne nous demande pas, par exemple, pour celles et ceux qui sont adoptés à l'international, s'ils souhaitent quitter leur pays. Moi, souvent, quand je dois expliquer rapidement pourquoi l'adoption est un sujet politique, je dis, aujourd'hui, ça semble évident que si on veut devenir parent et qu'on est infertile, ben on peut faire venir un enfant d'un pays étranger. Ça pourrait être les parents infertiles qui se déplacent et qui, eux, deviennent des étrangers en Corée, qui, eux, deviennent des blancs, qui doivent apprendre à parler coréen, à découvrir une autre nourriture, une autre culture, etc. C'est pas, en fait, du tout quelque chose, on va dire, d'inné, de déplacer les enfants. On déplace les enfants parce que le pouvoir est du côté des adultes, par exemple.
Alors justement, Amandine Guest, c'est de ça dont je veux qu'on parle. Je veux que vous me parliez de l'adoption dans le sens que ça pose des questions raciales et des questions migratoires. C'est ça qui m'intéresse le plus dans votre travail de recherche et dans le mémoire en sociologie que vous avez écrit sur l'adoption. Expliquez-moi quelles questions raciales ça pose.
Et ben encore une autre très facile. On voit rarement des familles noires avec des petits blancs dans la rue. Par contre, l'inverse est tout à fait courant. Et ça donne un exemple justement aussi des différentiels de rapport de pouvoir entre les pays du Nord global et puis les pays du Sud global. C'est-à-dire que on ne transporte pas non plus les enfants de n'importe quelle destination vers n'importe quelle destination. Les flux vont que dans un sens. Ils vont des pays du Sud vers les pays du Nord. Ils vont des familles pauvres vers les familles riches. Et donc, dans des pays du Nord où on a du mal à se poser les questions raciales, et je parle de la France que je connais bien.
Et d'ailleurs, vous employez le mot racisé, qui est un mot que nous qu'on emploie peu.
Oui, parce qu'il s'agit d'un processus. Et pour moi, c'est important que les gens comprennent que noir est une construction sociale et historique. Et donc, justement, on subit un processus de racisation parce qu'une personne noire, quand elle est en Haïti, elle est haïtienne. Et son identité, alors après, elle peut être noire et considérer qu'elle a une identité noire, mais elle est avant tout haïtienne. C'est en arrivant sur le sol français que cette personne devient noire avec les projections qui sont associées, avec les stéréotypes qui y sont associés. Donc pour moi, la racisation comme processus, et c'est pour ça que j'ai dit que si les candidats à l'adoption, on leur proposait à l'inverse, s'ils veulent élever un enfant, d'aller découvrir son pays et de vivre là-bas, eux vivraient aussi un processus de racisation. Parce que quand on est blanc en France, ben on appartient au groupe majoritaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se crispent quand on dit blanc. Mais en fait, blanc, c'est juste faire partie d'une catégorie sociale qui est celle de la norme. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans la norme, puisqu'on est au milieu de la norme. Par contre, quand on se déplace, je sais que, par exemple, ça arrive souvent que des Français qui vont faire du tourisme en Amérique latine reviennent choqués en disant « on n'a pas arrêté de m'appeler gringo, moi je suis pas un gringo, etc. » Ben oui, ben en Amérique latine, les Blancs sont vus de façon indéfinie et puis tout le monde est un gringo. C'est peut-être pas agréable et c'est effectivement ce que vivent les minorités en France, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques. Moi, je sais, par exemple, dans l'adoption, ben, toutes les personnes qui ont été adoptées de Corée et d'autres pays asiatiques et à qui on dit les Chinois, bon voilà, ça c'est aussi une forme d'assignation qui fait qu'en France, on devient très vite assigné à un groupe indéfini qui nous réifie, qui enlève notre identité, notre humanité. C'est ça aussi les assignations raciales. C'est qu'on n'est plus une personne.
C'est-à-dire, vous n'êtes plus une personne et en plus, les personnes racisées que l'on a adoptées, qui ont été adoptées en France, le regard que l'on porte sur ces personnes, c'est le même regard que l'on porte sur les personnes immigrées. Or, ces adoptés ne sont pas des immigrés comme les autres.
C'est qu'on ne pense pas aux adoptés à l'international comme des migrants. On pense aux adoptés à l'international comme des personnes justement qui vont devenir françaises. Et après, on peut effectivement s'étonner de dire qu'ils revendiquent l'identité d'adopté. Mais c'est évident qu'en grandissant en France, où on a un rapport particulier à la différence, et où si on ne veut pas parler des questions raciales, en tout cas, le débat est là quand on est dans une cour d'école et qu'on vous dit « Eh, la chinoise, alors vous êtes coréenne d'origine, etc. » Vous devez vous poser la question. Vous vous retrouvez face à des assignations raciales et est-ce que votre famille, est-ce que les institutions, est-ce que l'État avait prévu cette différence-là? Et est-ce qu'on pense même aux personnes adoptées comme des personnes migrantes? Et on ne le pense pas.
Alors non, jamais.
Ce sont des migrants et en plus ce sont des personnes qui migrent contre leur gré ou en tout cas à qui on n'a pas demandé leur avis. Moi, dans mon mémoire, je parle de migration forcée puisque en sociologie, la migration forcée, c'est quand une personne n'est pas l'agent de son immigration. Et c'est exactement ce qui se passe pour les personnes adoptées. C'est pour ça que je donne souvent l'exemple de pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les parents occidentaux qui, eux, se déplacent.
Ce qui est très très dur, en effet, c'est cette coupure brutale d'une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois et qui doit un jour dire « c'est fini, je ne le verrai plus jamais ». Et il y aurait sans doute beaucoup moins d'enfants délaissés dans les DAS s'il y avait des formules d'adoption plus progressives. Il me semble que dans des cultures africaines, par exemple, on peut donner un enfant, quand on a déjà eu soi-même beaucoup d'enfants, on peut donner un enfant à une famille. Et d'ailleurs, l'enfant n'est pas la propriété de son père et de sa mère dans ces cultures-là. Il est la propriété de la collectivité. Et c'est toute la différence. Et à ce moment-là, c'est vrai que dans ces cultures-là, quand on donne un enfant, on sait où il est, on le verra de temps en temps. Les choses se font au grand jour, sans cet aspect caché qui est tout de même extrêmement difficile. Et bon, je crois pas qu'on soit là aujourd'hui dans notre société, mais peut-être il faudrait y venir.
Amandine Gay, ça c'est un autre aspect de votre travail et de la prise de conscience que vous essayez d'éveiller en nous, c'est que vous cherchez aussi à interroger l'effacement et la rupture totale des liens de filiation avec les familles biologiques. Quand on est adopté en France, on devient français et on abandonne ses origines, on abandonne son histoire et ses particularités. C'est ça le deal.
Oui, l'adoption, en tout cas, on va dire en termes conceptuels, repose encore sur l'idée d'une tabula rasa. Pour qu'un enfant devienne vraiment l'enfant de ses parents, il faudrait qu'il n'ait pas d'histoire et qu'il arrive complètement neuf. Et même dans l'adoption, effectivement, sous X, moi, par exemple, j'explique souvent qu'en France, on crée ce qu'on appelle une fiction juridique. Sur mon acte de naissance, c'est écrit « Amandine Gay, née de Marie-Claude et René Gay ». Moi, je suis pas née de Marie-Claude et René Gay. On nous change notre acte de naissance quand l'adoption plénière est prononcée.
Ça, je savais pas.
Moi, je suis née sous X et je suis la fille de Marie-Claude et René Gay. Ça ne change rien en fait. J'ai pas besoin qu'on me fasse ressembler ma parentalité, ma filiation à une filiation biologique. Moi, ma famille, c'est la famille qui m'a élevée, qui m'a aimée. Et donc, c'est vrai que j'ai aimé l'entretien qu'on a entendu juste avant, parce que cette conception de la parentalité qui est occidentale et puis qui est très contemporaine. On oublie qu'avant la révolution industrielle, la vision des enfants n'était pas celle nécessairement des enfants comme propriété et puis surtout de la famille nucléaire avec sa version la plus caricaturale qui est la manif pour tous, un papa et une maman. Moi, je pense aux grandes familles ouvrières où tout le monde vit sous le même toit, les grandes familles agricoles, on peut être élevé par des grands-parents. La circulation des enfants, c'est quelque chose qui se pratiquait aussi en Europe et qui effectivement continue à se pratiquer dans un certain nombre de sociétés africaines, dans la Caraïbe, en Amérique latine. En fait, un peu partout finalement, sauf en Europe et en Amérique du Nord. Et en fait, c'est vraiment une chose sur laquelle on doit réfléchir, parce que moi, je suis tout à fait d'accord. La raison pour laquelle il y a énormément de personnes qui sont en foyer, c'est justement parce que l'adoption simple n'est pas un processus qui est très connu et qui est très plébiscité en France, parce qu'on a toujours cette peur que l'enfant ne soit pas à nous. Pour l'instant, le titre de travail de mon prochain film, c'est Un enfant à soi. Parce que le prochain film, il veut questionner cette idée de qu'est-ce qui fait qu'un enfant est et à soi. Est-ce qu'on appartient à une famille par les liens du sang, et que donc s'il n'y a pas ces liens du sang, alors on va essayer de faire en sorte que la famille ressemble plus à une famille biologique possible, qui est encore la logique qui préside à l'adoption aujourd'hui? Ou est-ce que la famille, la filiation, c'est autre chose? Est-ce que c'est le soin? Est-ce que c'est le fait de s'inscrire dans une histoire familiale? Est-ce que c'est la relation? Par exemple, penser aussi l'adoption comme une rencontre. Et je pense en particulier en adoption internationale, avec des enfants qui arrivent aujourd'hui de plus en plus grands. Si on est dans une projection qui est celle, et d'ailleurs même dans la filiation biologique, on oublie qu'il y a le postpartum, donc la rencontre, même quand elle est biologique, ne se passe pas automatiquement bien toujours. Mais quand en plus on rencontre une personne qui est déjà formée, on peut soit se dire, et avoir fait des projections antérieures, de dire c'est mon enfant, il arrive, je vais l'appeler maman. Il faut se mettre à la place des personnes, toujours. Moi je dis le plus simple, c'est de vous dire, à 2 ans, vous avez quand même déjà une forme de personnalité. Je reprends mon exemple d'Haïti. Vous avez 2 ans, vous êtes en Haïti, dans un orphelinat, vous êtes entouré de noir, votre référence, c'est ça. Vous prenez l'avion pour la première fois de votre vie, vous arrivez à Orly, à Roissy, et là, il y a 3 personnes blanches ou 2 personnes blanches qui vous attendent et qui disent « Je suis ta maman, appelle-moi maman, qui vous sert, qui vous embrasse, etc. » Il se peut que vous ayez un petit temps d'arrêt. Et il se peut que vous réagissiez pas immédiatement en disant « Maman, etc. » Parce que d'un coup, vous vous retrouvez vous avez pris l'avion, vous retrouvez dans un autre pays, c'est une autre langue, c'est des blancs, ils ont pas la même odeur, la nourriture est différente, ça fait déjà un certain nombre de changements auxquels il va falloir s'adapter avant de pouvoir construire une relation. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse arriver à penser à ça en ces termes. Il s'agit d'une rencontre. Quoi qu'il arrive, et aussi dans les parentalités maternité biologique, je pense que ça ferait pas du mal, de mal aux gens de se dire qu'il s'agit d'une rencontre et que les enfants ne sont pas le prolongement d'eux-mêmes, mais sont voués à devenir des personnes à part entière. Ça, c'est ma vision de la parentalité. On fait pas des enfants parce qu'on veut un clone ou un mini-moi. En tout cas, moi, je pense que voilà, les enfants, c'est juste des personnes en devenir. Elles ont moins d'expérience.
En voulez, vous, des enfants, Amandine Gay?
Moi, j'aime la transmission. J'en ai déjà un, d'une certaine façon.
Ouais.
Et donc, du coup, ouais, je sais pas si j'en veux forcément, moi. Un enfant à moi, pas forcément, finalement. Mais justement, je pense que c'est intéressant et ça va être très intéressant de continuer à travailler là-dessus puis de pouvoir rendre ces discussions publiques. La vision de la parentalité et de la filiation qu'ont les personnes adoptées, bah, c'est une vision qui est très large. Moi, je considère qu'un certain nombre de gens font partie de ma famille. Et ce nombre de gens, il est très large. Parce que, justement, la famille, c'est aussi celle qu'on se choisit et qu'on se construit.
Me shiver, and I wanna run to the edge of the earth with you, and I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. It's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower. Devour me. Better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Run to the edge of. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Alors Amandine Gay, je vais reprendre quelques-uns des événements qui se sont passés dans cette année 2002, donc cette année où vous rentrez à Sciences Po et vous avez accès à votre dossier d'enfants nés sous X. Le 1er janvier 2002, l'euro devient la monnaie officielle de l'Union économique et monétaire. Vous intervenez quand vous voulez. Le sociologue Pierre Bourdieu disparaît. Ah bon, allez.
Ah ben moi, quand je me suis installée à Paris, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller sur la tombe de Pierre Bourdieu au Père Lachaise. Et Bourdieu a considérablement changé ma vie, parce que moi, j'ai découvert la socio en terminale. J'ai fait une terminale sciences économiques et sociales. Le prof nous avait sorti la statistique des enfants d'ouvriers qui restent majoritairement ouvriers. Et puis moi, j'avais dit, oui, mais moi, ma mère, c'est une enfant d'ouvrier, elle est devenue institutrice. Et il m'avait dit, oui, mais c'est pas le principe de la sociologie. La sociologie, c'est pas le particulier ou les exceptions. C'est justement comprendre la reproduction sociale, etc. Et puis ça a changé ma vie et puis ça m'a passionné pour la socio.
Alors en 2002, Maurice Papon, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, est libéré pour des raisons médicales. Billy Wilder meurt. Jacques Chirac inaugure le Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Et le 20 avril 2002, la gauche disparaît de nos écrans.
Dans quelques secondes, il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Énorme surprise, donc Jean-Marie Le Pen serait au second tour.
Amandine Gay, vous aviez voté ou non? Vous étiez encore trop jeune?
Ah non, j'étais mineure et ça a été un grand traumatisme de ma vie d'assister à ça en n'ayant rien pu faire. C'était vraiment horrible. Je me souviens très bien du lendemain de cette élection où à un moment donné je me baladais, ou en tout cas dans les jours qui suivent, je me prenais dans la rue vers mon lycée et puis j'avais ma capuche et puis je regardais par terre. J'étais vraiment très très fâchée et puis j'avais croisé, il y avait un monsieur noir un peu voilà qui se parlait un peu à lui-même, etc. Mais il m'avait interpellé puis il m'avait dit c'est pas à nous d'avoir honte, il faut relever la tête, etc. Puis j'avais enlevé ma capuche et puis je m'étais dit ouais, c'est vrai, c'est pas à nous d'avoir honte en fait. Et donc ouais, non, ça m'a vraiment marqué. Puis ça a été aussi déterminant pour la suite de mes études, puisque moi à la fin de Sciences Po j'ai fait mon mémoire sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française, parce que je pense que 2002 c'est vraiment le moment où j'ai commencé à comprendre que le passé n'était pas passé et puis qu'il allait falloir sérieusement s'engager sur la voie de l'antiracisme si on voulait que les choses changent. Bon, ça n'a pas été un grand succès pour l'instant, mais en tout cas ça n'empêche pas de militer quoi.
Dans cette rue déserte, seuls résonnent les roulements de tambour. Escortée par un détachement de cavaliers à cheval, la dépouille d'Alexandre Dumas est accueillie à Paris de la manière la plus solennelle. Dans la cour d'honneur du palais du Luxembourg, le président du Sénat, le ministre de la Culture, entouré des élus des communes où vécut Alexandre Dumas. À travers cet hommage, le Sénat confirme son attachement à la défense de l'égalité des races au sein de la République. Lui, Alexandre Dumas, fils et petit-fils d'esclaves, retrouve ici les noms d'illustres sénateurs, l'abbé Grégoire, Victor Schœlcher, Gaston Monnerville, des hommes qui, toute leur vie, ont lutté pour l'abolition de l'esclavage.
Alors, Amandine Gay, vous vous souvenez que le 30 novembre 2002, Alexandre Dumas rentrait au Panthéon?
Ben, je m'en souvenais pas, mais je sais bien que Dumas est au Panthéon, et j'ai d'ailleurs, il y a une visite de Paris qui s'appelle le Paris Noir, qui permet d'aller sur toutes les traces des Noirs, des Afro-descendants dans la capitale. Ouais. Et donc, la visite commence par le Panthéon, justement, pour parler de Dumas.
Amandine, spéciale dédicace, ça c'est pour vous, c'est une de vos chansons préférées, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un gospel, et c'est un gospel que j'aime beaucoup parce que, déjà il a un petit côté un peu rock, et puis oui voilà, il s'agit de, bon ça s'appelle voilà, I've Got a Testimony, et c'est un témoignage pour dire qu'on a eu une vie bien rempli et dans ce cas-là, et qu'on remercie le Seigneur. Alors moi, effectivement, je suis agnostique, donc je m'arrête au fait que je suis très heureuse d'avoir une vie très riche et très remplie. Mais c'est vrai que j'aime toujours les chants religieux. Et ouais, je dis même souvent que si c'était possible d'aller à des messes, on va dire, qui ne soient pas religieuses, j'irais. J'aime cette idée de la communion, de partager des chants, d'être ensemble, et en particulier avec les gens de sa communauté quand c'est possible. Donc oui, j'aime toujours beaucoup ça, et donc j'écoute les gospels chez moi, même si je ne vais plus à l'église depuis bien longtemps.
Mais ce gospel, c'est pour dire ça va bien, quoi.
Oui, en tout cas, ça veut dire qu'on est content d'être là où on en est. Moi, je sais pas si ça va toujours bien, mais je pense que c'est important de s'arrêter et de se dire voilà, j'ai fait mon chemin et puis je suis content d'être là où je suis.
Merci Amandine Gay. En tout cas, moi j'étais contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Alors sur le site de l'émission, on pourra retrouver les références de votre film hein, Ouvrir la voie, qui sort en DVD. Il y aura aussi le lien vers votre blog, des informations sur le mois des adoptés qui commence là le 6 octobre, c'est ça?
Le 6 octobre, ce sera la journée de lancement qui s'appelle Les adoptés se réapproprient la narration, et il y aura une grande table ronde avec des associations d'adoptés de France, de Suisse, du Québec. Il y aura des dédicaces avec des auteurs adoptés adoptées, et je pense en particulier à Jung, l'auteur de Couleur de pommier, qui est un grand classique pour les personnes adoptées. Et puis ensuite, en novembre, et dans, on annoncera le 6 octobre le lancement du premier mois des adoptés dans le monde francophone, qui commencera le 14 novembre à Paris, et tous ces événements auront lieu, donc au lieu secret, dans le 14e rue Francis de Présancé.
C'est-à-dire l'ex-entrepôt.
Tout à fait.
Alors, c'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Pierre Lemierre. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr.